Aujourd'hui, je vais partager un message qui me travaille en ce moment, depuis quelques semaines, et qui trouve un écho dans mon cœur, et j'espère que ce sera aussi le cas pour vous. Déjà, la vie chrétienne est un défi. C'est un défi pour chacune dans ses domaines, chacune dans ses saisons, chacune dans ses situations diverses et variées. Et c'est un défi qui nous montre à quel point on n'est rien devant Dieu. Que les choses qu'on considère parfois grandes et les montagnes qui peuvent être devant nous ne sont quelque part rien devant Dieu. Dieu peut balayer tout ça. Dieu peut nous donner un chemin où nos yeux ne voient pas. La vie nous défie, et la vie en Christ nous défie dans notre manière de penser, de voir les circonstances. Et c'est vrai qu'on aime la puissance de la résurrection. On aime le Jésus qui est né, déjà le Fils de Dieu qui est venu, le Jésus de la crèche. On aime le Jésus qui a fait des miracles pendant sa vie, qui en fait encore aujourd'hui, parfois de manière étonnante dans notre quotidien. Mais aussi, on a du mal avec le Jésus de la croix. La mort à la croix, pour nous, n'est pas simple. Et d'ailleurs, elle n'était pas simple pour Jésus lui-même, en fait. Il a dit en Luc 22, 42, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Donc c'est normal que la croix brûle notre chair. Et je pense que personne ici ne veut naturellement souffrir, être vulnérable, être impuissant. Et je ne pense pas, je pense que vous devez être plus spirituel que moi, mais personne le matin ne prie en disant « Seigneur, j'espère que tu vas m'envoyer beaucoup d'épreuves aujourd'hui. Seigneur, montre-moi comment je vais brûler. » Personne n'appelle ce genre de prière. Au contraire, on sait que les épreuves seront là. On compte sur sa force, on compte sur sa puissance. On lui demande de nous encourager. Donc c'est normal que notre chair brûle et c'est normal que ce soit inconfortable quand on pense à notre vie naturelle. Quand ces moments-là arrivent, qu'est-ce qu'on fait quand on ne comprend pas où Dieu veut nous emmener? Quand on ne comprend pas quel est son plan? Et parfois, au moment où on le vit, on a du mal parfois même à discerner quelle est la leçon, en tout cas, qui veut nous apprendre. Et qu'est-ce qu'on fait quand on vit des moqueries, on vit des injustices, on vit aussi parfois une sorte de manque de considération. En tant que femme, on peut beaucoup donner dans notre quotidien, à beaucoup, que ce soit dans notre vie personnelle, mais au travail aussi, les voisins. On peut beaucoup donner, et parfois, c'est pas toujours reconnu. C'est pas toujours, y a pas toujours de gratitude en face. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Donc, je vais vous partager, si je devais donner un titre au message que j'ai préparé, ce serait « Garder le silence et obéir par la foi ». Garder le silence et obéir par la foi. Donc, on aura deux points. J'ai abordé ça sous deux angles. Donc, le premier, c'est le silence sacré. Et le deuxième, c'est obéir par la foi. On va parler de Marie. C'est vrai qu'on parle souvent d'elle. C'est quand même la mère de Jésus, oui. C'est un personnage assez central par rapport à la vie de Jésus. Déjà, c'est sa mère et elle a dû vivre beaucoup de choses. On va parler d'elle. Mais on va parler d'un aspect que jusque-là, j'avais pas vraiment peut-être compris en profondeur. Et la Bible nous montre, en tout cas c'est ce que je vois dans certains passages, que Marie, c'était une femme qui méditait beaucoup. Je pense qu'elle a eu beaucoup d'occasions de méditer, du moment où l'ange est venu, au moment où elle a vécu, elle a dû fuir, quand elle est revenue, qu'elle a vu son fils grandir, qu'elle a vu faire des miracles, qu'elle a vu souffrir, elle a eu certainement beaucoup d'occasions de méditer. Et dans deux passages, c'est vraiment marqué par la parole. Il est dit dans la Bible qu'elle parle, qu'elle garde et repasse dans son cœur les événements et les promesses de Dieu. D'abord en Luc 16, 19. Luc 2, 16, 19. Après la visite des bergers à Bethléem. Donc il est dit, ils y allèrent, ce sont les bergers, ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce que leur avait dit, ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Le deuxième passage, c'est dans Luc 2, 49 à 51. Luc 2, 49 à 51. Et c'est l'épisode où elles pensent avoir perdu Jésus quand ils vont à Jérusalem. Donc, après avoir retrouvé l'enfant Jésus à Jérusalem qui s'occupait des choses de son père, il leur dit, pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Ils, ce sont les parents, ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Sa mère, donc Marie, gardait toutes ces choses dans son cœur. Souvent, le piège, l'un des pièges dans l'épreuve, c'est qu'au moment où on vit ces injustices, ces douleurs, ces incompréhensions, l'un des premiers réflexes, on va dire, c'est déjà de chercher à se justifier, de chercher à défendre son cas, de chercher la reconnaissance, la validation, selon la situation, parfois la pitié même des gens. Et un point important dans l'histoire de Marie, c'est que elle n'est pas, en tout cas la Bible ne le dit pas, qu'au moment où l'ange lui a révélé ce qu'elle devait vivre, au moment où elle a été enceinte et que ça s'est su, on ne dit pas qu'elle est allée ni sur la place publique pour défendre son cas, ni aller voir chacun pour dire oui, mais tu comprends, il y a un ange qui est venu, qui m'a dit ça. Je suis enceinte. Elle n'a pas défendu son cas. Et en tout cas, ce n'est pas dit dans la Bible. Elle n'a rien dit. Elle est allée voir sa cousine Élisabeth, mais elle n'a pas cherché à se défendre. Elle n'a pas cherché à prouver au monde qu'elle avait raison. Elle a juste vécu ce qu'elle avait à vivre avec Dieu. Elle a gardé le silence. Donc, comme Marie, j'ai marqué, Dieu nous appelle à méditer sur son caractère et à chercher sa face. Le silence est un travail intérieur où la promesse de Dieu prend racine pour devenir une force dans la tempête. Le silence dans ces situations-là, un silence où on cherche la face de Dieu, va prendre racine dans notre cœur, va fortifier notre foi au milieu même de la tempête. Un autre personnage qui illustre le fait de garder le silence en Dieu, c'est Joseph. En Genèse 37 et les passages suivants, on voit qu'il garde le silence devant l'injustice de ses frères qui l'ont vendu. Il garde le silence devant les accusations de la femme de Potiphar, il va en prison alors qu'il n'avait rien fait. C'est une pure injustice, mais il a accepté ce sort-là parce que lui avait la foi en Dieu et il cherchait la récompense de Dieu. Et c'est ce qui a fait que même quand les chansons là a oublié, l'a oublié après l'interprétation du rêve, on ne dit pas que Joseph est rentré dans une colère ou il a attendu. Et c'est 2 ans plus tard que les chansons s'est souvenu de lui. Il a eu la récompense de Dieu et c'est ce qui l'a emmené de la prison jusqu'au palais. C'est ce qui a fait que il a pu rentrer dans le plan de Dieu pour non seulement sauver sa famille, qui était dans la famille et qui est, la famine et qui est venue, mais aussi tout le pays finalement. Parce qu'il a mis sa confiance en Dieu, qui n'a pas voulu se justifier devant les hommes, qu'il a gardé le silence quelque part. Un autre passage qui parle de garder le silence devant l'injustice, c'est dans la prophétie sur Jésus de Ésaïe 53, 7. Ésaïe 53, verset 7. Où on dit qu'il a été maltraité, en parlant de Jésus qui viendra. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Le silence est une facette du combat spirituel. Et c'est un combat qui se passe à la fois, parfois avec l'extérieur, les attaques extérieures, mais parfois même avec nous-mêmes, avec nos pensées. Comment on se parle à soi-même quand on traverse des situations difficiles? Qu'est-ce qu'on médite? Est-ce que on fait taire aussi ces pensées-là qui ne vont pas dans le sens de Dieu, ces pensées qui nous tirent vers le bas et la poussière? Ou est-ce que on médite la parole de Dieu? Donc garder le silence, c'est aussi faire taire en nous les voix, les accusations du diable, nos pensées naturelles qui veulent nous détourner du plan de Dieu. Garder le silence, c'est refuser de combattre les hommes pour laisser Dieu devenir notre avocat. On peut le voir en Exode 14, 14 où il est dit, Exode 14, 14, où il est dit: L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. C'est dans un autre contexte que ça a été dit, mais on peut quand même se l'appliquer à soi aujourd'hui. Le deuxième point que je voulais voir avec vous, c'est obéir par la foi. Pas obéir par la crainte, pas obéir par les traditions, qu'elles soient familiales ou même personnelles, pas obéir parce que on nous a dit qu'il fallait obéir, donc on le fait, mais on n'y croit pas trop. Non, obéir par la foi. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, c'est dit en Matthieu 12, 34. C'est par ce principe-là qu'on voit que Marie a pu proclamer son bonheur. Quand elle va voir Élisabeth et qu'elle discute au tout début, elle a pu proclamer son bonheur au milieu même des épreuves et des éventuelles calomnies qu'elle a dû vivre. En Luc 1, 46 à 49, Luc 1, 46 à 49, et Marie dit: Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante, car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Donc le terme la bienheureuse, toutes les générations me diront bienheureuse, c'est dans ce verset, il vient du verbe d'action grec makarizo. Et makarizo signifie qui est annoncé béni, proclamé heureux, estimé heureux. C'est un verbe d'action. Donc, obéir et vivre ce makarizo, ce n'est pas un bonheur qui est passif. C'est une position qu'on prend. On prend position et on dit, Seigneur, je proclame par ta parole que je suis bien heureuse. Makarizo, qui est annoncé béni, proclamé heureux, estimé heureux. Et on le fait sur la base de la parole de Dieu et de son caractère, sans attendre la récompense ou l'approbation des hommes. C'est un acte de foi parce que je pense qu'on a déjà toutes pu l'expérimenter parfois. On ne ressent pas le bonheur. Quand on passe par les épreuves, on ne ressent pas, c'est pas quelque chose qu'on peut ressentir. Mais on le proclame, on le déclare. Et on ne déclare pas par, je ne sais plus comment s'appelle la technique, où on se dit des choses positives, voilà, méthode Coué. C'est vraiment sur la base de la parole, qu'est-ce que Dieu dit de moi? Dans la Bible, quelle est mon identité? Est-ce que je suis élue avant la fondation du monde? Est-ce que Dieu est mort, Jésus est mort à la croix? Pour moi, personnellement. Parce que parfois, on peut le prendre comme quand Dieu a tant aimé le monde. On le prend un peu comme quelque chose de vague, parfois, ou de très loin. Le monde, ça peut être un concept. Non, pour moi, aujourd'hui. Jésus est mort pour moi, personnellement. J'ai été élue personnellement avant la fondation du monde. Il m'a dit personnellement qu'il ne me laisserait pas. Toutes ces phrases, ces vérités qui sont dans la Bible et qui sont sûres, on sait qu'on a un Dieu qui ne change pas, on a un Dieu qui ne ment pas. S'il nous dit qu'il nous aime, c'est qu'il nous aime. S'il nous dit qu'il a des projets de paix, de bonheur, voilà, qu'on puisse expérimenter une plénitude avec lui, c'est que c'est vrai, même si on ne le ressent pas. Parfois, c'est le ressent pas qui pose parfois problème, mais voilà, c'est quelque chose à croire et à méditer. Et je pensais au fait même de méditer. Est-ce qu'on peut méditer, peut-être certains ne comprendront pas qu'ils ne vivent pas à Paris, mais en plein milieu de Châtelet-Léal, avec des gens qui tournent autour de nous, qui nous parlent fort, qui viennent nous voir, est-ce que ce sont les conditions optimales pour méditer? Pas toujours, c'est peut-être possible, mais ça demande beaucoup de concentration. C'est vraiment un moment qu'on prend seul avec Dieu, dans les conditions où on est vraiment concentré, où il n'y a pas de distraction, et qu'on médite, et qu'on repasse, et qu'on se redit qu'est-ce que Dieu m'a dit aujourd'hui, ou qu'est-ce qu'il m'a dit pendant un culte, ou une prière, ou peu importe. On se le repasse, on se le redit. Et si Dieu nous dit de méditer, c'est qu'on a besoin de le faire. Ça ne peut pas être juste une vérité, une phrase, qu'on se dit comme ça, et puis c'est fini, c'est une fois dans la vie et c'est bon. On a besoin d'entendre, on a besoin de méditer, on a besoin de revenir sans cesse sur les promesses de Dieu, sur le caractère de Dieu, sur ce qu'il dit de nous, notre identité. Parce qu'on a trop d'occasions, beaucoup trop d'occasions, et le diable ne nous aide pas dessus, d'oublier ou de les prendre à la légère ou de se mettre dans une sorte de familiarité où on ne le croit plus, où ça devient juste des mots. En fait. On retrouve aussi ce verbe makarizo dans un autre passage, en Jacques 5, versets 10 et 11. Jacques 5, 10 et 11. Mes frères et sœurs, prenez pour modèle de patience dans la souffrance les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Nous disons heureux ceux qui persévèrent. Donc ce heureux-là, c'est le makarizo. Nous disons heureux ceux qui persévèrent. Vous avez entendu parler de la persévérance de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée. Car le Seigneur est plein de tendresse et de compassion. Donc dans ce passage, il s'agit aussi de makarizo, proclamé, annoncé, estimé heureux. Job a tout perdu et pourtant c'est un exemple du makarizo parce que même au milieu, au plus profond de son épreuve, il n'a pas maudit Dieu. Il a continué de proclamer la souveraineté de Dieu et on voit, et lui-même le dit, que la fin est mieux que le début. Au début, c'était déjà un homme de Dieu. Mais dans l'épreuve, il a pu expérimenter une autre facette de Dieu et de sa foi qui lui ont permis de dire « Waouh, avant je croyais, maintenant. » Obéir, c'est proclamer que la victoire est déjà acquise. C'est voir l'épreuve comme une étape sur le chemin de la sanctification. Voir l'épreuve comme une étape sur le chemin de la sanctification. On ne va pas s'arrêter à cette épreuve. La sanctification, c'est un chemin. Tant qu'on est ici, on est sur ce chemin-là. Et on ne va pas s'arrêter à cette épreuve. On est appelé à continuer, à marcher, à continuer. Et on ne va pas obéir, comme je disais, par la crainte, la peur, quelque part, de Dieu, mais on va obéir parce que on croit ce qu'il est, ce qu'il a fait et ce qu'il fera encore sur ce chemin de sanctification. C'est pas fini. On ne s'arrête pas là. Quand je marche dans la vallée de l'ombre, je marche, je ne m'arrête pas et c'est fini, le voyage est terminé. Je marche, j'avance. Et ce qui va nous garder dans cette marche-là, c'est de toujours se rappeler qui est Dieu, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il fera, qu'est-ce qu'il dit dans sa parole qu'il fera. Parce qu'on ne peut pas avoir confiance en l'homme, même en nous-mêmes. Même si ça fait plus de 20, 30 ans qu'on connaît Dieu, on a toujours besoin de regarder à lui. Donc on a toujours besoin d'obéir par la foi. En Luc 1, 38, Marie dit « Qu'il m'en soit fait selon ta parole. » Donc c'est quand l'ange lui dit, lui explique le plan et qu'elle demande au départ « Mais comment ça va se faire? Je n'ai jamais commis le don, comment je vais être enceinte ?» Que l'ange lui explique, elle ne va pas plus loin. Elle dit « Qu'il en soit ainsi. » Elle obéit par la foi. Donc on peut être brisé par les circonstances tout en restant bien heureuse. On peut ne pas comprendre ce que Dieu veut faire, ce qu'il est en train de faire, tout en étant bien heureuse. Makarizo. L'obéissance nous met toujours en mouvement. Toujours en mouvement. Comme je disais, je marche dans la vallée, je marche. Je vais toujours de l'avant. En hébreu, le mot « achar » A-S-H-A-R, j'ai vu que ça signifiait marcher, aller droit, avancer, faire des progrès et être heureux, béni. C'est-à-dire dans le mouvement avec Dieu, dans le mouvement, la marche, le progrès, il y a aussi cette dimension de bienheureux, bienheureuse pour nous ici ce soir, cet après-midi. Donc on va toujours de l'avant. Et dans chaque pas d'obéissance à Dieu, se cache une vie abondante que l'on ne peut pas fabriquer soi-même. les chemins que Dieu va ouvrir, où nos yeux ne voient pas encore et que Dieu va créer, les choses que Dieu va nous faire découvrir, on ne peut pas les créer nous-mêmes. Ce sont des choses de Dieu qui sont élevées, qui sont célestes. On ne peut pas les créer. On ne peut que vivre pas à pas dans cette obéissance et être émerveillé par ce qu'il va faire. Donc, il n'est pas nécessaire de tout comprendre pour obéir. Il n'est pas nécessaire de tout comprendre pour obéir. L'obéissance qui honore Dieu est celle qui se met en action immédiatement en acceptant le mystère divin. Il faut accepter qu'il y a des choses qu'on ne comprendra pas, en fait. Dieu va peut-être nous les montrer plus tard. Parfois, ça arrive que Dieu nous montre plus tard. Mais peut-être qu'il y a d'autres choses qu'on ne comprendra jamais jusqu'à la fin. Mais on est appelé à obéir. Donc, on n'a pas besoin d'avoir tous les éléments, mais on avance sur la base de la fidélité de Dieu. Alors, Matthieu 4, 18 à 20. Matthieu 4, 18 à 20. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. C'est Jésus qui leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. J'essaye d'imaginer la scène. Je ne sais pas si les deux protagonistes savaient ce que ça voulait dire, « Je vous ferai pêcheurs d'hommes. » À leur époque, je ne sais pas s'ils savaient, mais dans tous les cas, la Bible dit, après cette phrase, aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Aussitôt. Quels sont les domaines de notre vie où Dieu nous a dit et puis on a essayé de négocier? Mais c'est-à-dire, est-ce que c'est le matin? Est-ce que c'est le soir? Qu'est-ce que je vais trouver devant, Seigneur? Est-ce que tu es sûr? Ou parfois on va finir par rester immobile à essayer de comprendre le plan de Dieu, alors qu'on est limité pour comprendre souvent les choses de Dieu, certains domaines. Mais on va rester là pour non, mais si c'est pas après, si c'est pas comme je le vois, si c'est pas dans mon scénario, je ne vois pas comment tu vas le faire, Seigneur, donc peut-être que c'est mieux que je reste où je suis, en fait. Mais non, Dieu nous appelle à avancer. Il va nous montrer, c'est pas confortable, c'est pas confortable pour la chair, mais par la foi, on va vers lui, on avance, on obéit par la foi, on se proclame makarizo. Donc, pour finir le message, nous savons qu'aucune souffrance n'est vaine. Et tout concourt au bien, à notre bien. Donc, dans Romains 8, 28. Ce que je médite dans le silence de l'épreuve est important pour l'enracinement de ma foi. Ce que je médite dans l'épreuve. Est-ce que dans l'épreuve, je médite sa parole, ses promesses? Ou est-ce que je médite autre chose qui ne le glorifie pas? Dans l'épreuve, proclamons le nom de Jésus sur notre anxiété, sur nos doutes, et faisons le pas de foi d'obéir et d'avancer avec Dieu, même si on ne comprend pas tout. Et souvent, on ne comprend pas tout, mais on avance quand même. Donc, j'ai quelques questions pour vous, pour alimenter votre méditation, comme on a dit, comme Marie le faisait. Est-ce que mon silence est une marque de confiance en Dieu ou une forme de bouderie intérieure? Seigneur, je te boude. C'est une bonne question. Parce que le silence, ça ne veut pas juste dire « je ne dis rien, mais je n'en pense pas moi, en fait ». C'est vraiment ce silence-là qui nous dit « je fais taire la chair, je fais taire mon âme qui est tirée vers le bas ». Et je regarde à Dieu. pas le silence de la bouderie. Quelle promesse de Dieu ai-je besoin de repasser dans mon cœur aujourd'hui pour qu'elle devienne une racine face à mes épreuves actuelles? Quelle promesse de Dieu je veux prendre aujourd'hui pour moi? Comment puis-je exercer le makarizo aujourd'hui malgré ce qui me manque? Et il nous manque plein de choses, hein. Il nous manque beaucoup. Si on considère par les yeux naturels, il nous manque beaucoup de choses. On va trouver, si on commence à se demander ce qui nous manque, on va trouver. Mais comment je peux exercer le makarizo aujourd'hui? À qui est-ce que je donne le pouvoir de me déclarer heureux, bienheureuse? Est-ce que c'est au standard de ce monde? Est-ce que c'est au standard de ce monde ou est-ce que c'est à la parole de Dieu? Qu'est-ce qui va me déclarer bienheureuse? Si c'est par rapport au monde, on ne va jamais y arriver. Il y a toujours un nouvel étage à atteindre. C'est sans fin et c'est inatteignable. Et parfois, pour ceux qui pensent l'avoir atteint, s'ils n'ont pas Dieu, ils n'ont rien finalement. Il y a toujours ce vide. Donc voilà, c'est le message que j'avais pour vous.